Chapitre 2. En service. Au 1er janvier 1849, je trouvais à me placer dans une ferme où travaillaient déjà deux autres domestiques mâles et deux femmes. À cette époque, toutes les prétentions, tout l'orgueil des jeunes campagnards consistaient à montrer leur force physique et leur adresse dans les travaux des champs ou dans les jeux. Au pardon, dans les assemblées, entre jeunes gens, il n'était question que de force et d'adresse. Les fermiers en parlaient aussi entre eux, afin de pouvoir faire leur choix lors du louage des domestiques. Les jeunes filles à marier en jasaient également, car elles aussi avaient à faire leur choix. Mon père avait été et était encore un maître à manier tous les outils agricoles. Il m'avait donné de bonnes leçons pour l'entretien et le maniement de ces outils. Avec cela, et mon courage aidé par l'amour-propre, je me sentais capable de suivre, sinon les plus forts, du moins ceux de moyenne force, et surtout les filles de ferme avec lesquelles il ne fallait pas rester en arrière, sous peine de perdre tout prestige et l'estime même de ces filles, qui étaient très heureuses et très fières de vous battre, car elles obtenaient d'être citées et trouvaient à se placer plus avantageusement ou même à se marier. Le malheureux vaincu devenait un objet de moquerie et d'injure, et par suite trouvait difficilement à se replacer. Je fus assez heureux pour me tirer de cette première année, tout à mon honneur et à mon avantage. J'acquis ainsi d'emblée une double réputation à rendre jaloux tous les autres. J'étais un ouvrier capable, doublé d'un petit savant, car alors, quand on voyait un homme à la messe avec un livre, on le prenait pour un grand savant. J'emportais toujours le mien, celui que le curé m'avait donné. De plus, j'étais chargé par la fermière, sur les conseils du curé, de lire tous les soirs la vie des saints et de dire les grâces que je savais par cœur et que je scandais pathétiquement avec une grande onction, un peu mêlée peut-être de fierté et d'orgueil, qui pouvait ôter à mes prières toute leur vertu. Je passais ainsi mon temps entre trois ou quatre fermes, jusqu'à la fin de 1852. J'avais alors 18 ans, et je commençais à me demander si j'étais condamné à passer toute ma vie dans ce rude métier et dans ce triste milieu de misère, de superstition et d'ignorance. J'avais déjà entendu et vu certaines choses qui me faisaient réfléchir, des choses qui étaient en contradiction avec ce que nous disait le curé et avec ce que je lisais dans mes livres bretons. J'écoutais beaucoup les vieux, et ma mémoire bien développée retenait tout. De vieux marins, pendant l'hiver, quand la pêche ne donnait pas, venaient dans les fermes demander quelques morceaux de pain et souvent à loger, et promettaient, pour payer leur logement, de nous raconter leur long voyage. Tous, ils nous affirmaient avoir été jusqu'au bout du monde, ou du moins jusqu'à la limite au-delà de laquelle il était interdit à l'homme de passer. Ce devait être là, d'après eux, l'entrée de l'enfer, car il y avait, disaient-ils, une puanteur insupportable. D'un autre côté, ils affirmaient avoir été tout près du soleil. Un jour, ou plutôt un soir, je vis arriver un grand maigre avec un gros livre sous le bras, demandant à loger. Celui-là n'avait pas l'air d'un marin, car nos marins bretons d'alors, je parle des pêcheurs, n'avaient que faire de livres. Après avoir formulé sa demande presque d'un ton d'autorité, il s'assoit à table sans même attendre de réponse. Qui était donc cet homme voyageant ainsi avec ce grand livre, et qui avait plutôt l'air d'un maître que d'un solliciteur? Nous étions en train de souper. On lui trempa une écuellée de soupe qu'il mangea de bon appétit, accompagné d'une bonne tranche de lard et d'un morceau de pain noir. Je ne pouvais quitter mes yeux de cet homme, et surtout de son livre, dans lequel j'aurais bien voulu mettre mon nez. Il avait les cheveux taillés en brosse, contrairement à l'usage du pays où tout le monde portait les cheveux longs. Il avait des grands yeux bien ouverts, le front haut et découvert, le nez un peu long, sans être pointu, une large bouche, un menton plat et un peu rentrant. À cette époque, je commençais déjà à observer les hommes, surtout les hommes qui me paraissaient extraordinaires, qui étaient placés ou qui se plaçaient au-dessus des autres par leur talent et leur instruction. C'était un phénomène en ce temps de trouver dans nos campagnes bretonnes, en dehors du curé, un homme sachant parler le français et surtout sachant le lire et l'écrire. Lorsque notre homme se fut bien restauré et eut allumé sa pipe, il dit en mettant sa main sur son livre « Voilà un livre qui vous intrigue un peu, n'est-ce pas? Je vois que tout le monde a les yeux dessus. » « Oh oui, sûr, » répondit le patron. « Voilà le petit, là, en me montrant du doigt, qui voudrait bien avoir ses yeux dedans, et non dessus. »« Oh oh !» fit l'homme extraordinaire. « Il sait donc lire, le petit. »« Oh oui !» répondit à son tour la patronne avec un peu de flatterie. « Certainement, il sait lire presque aussi bien que le curé. »« Regardez la vie des saints qui est là, et le livre de messe que le curé lui a donné. »« Il lit tout cela au galop. » « C'est fort bien, ça, » dit l'homme. « Mais tout ça, c'est du breton. Et le livre que j'ai ici, ce n'est plus du breton, ni même du français. » Une des bonnes dit alors, « Jean-Marie, c'était moi, sait lire le latin aussi. » Elle croyait sans doute, cette pauvre fille, comme bien d'autres le croyaient alors, qu'il n'y avait dans le monde que le breton, le français et le latin. Mais l'homme répondit que son livre n'était pas non plus en latin. Nous nous regardions tous étonnés. En quelle langue pouvait-il être alors ce fameux livre mystérieux? Ce livre, dit-il enfin, est en grec, une langue perdue depuis longtemps, et qu'en Bretagne, je suis le seul à connaître. Avec les choses qu'il y a dans ce livre, je pourrais faire tout ce que je voudrais, si je ne craignais d'épouvanter les gens ignorants comme ils sont tous dans ce pays-ci. Il y en a cependant quelques-uns qui commencent à m'écouter, comme il y en a qui ont écouté mon prédécesseur, celui qui possédait ce livre avant moi. Vous avez sans doute entendu parler des travaux extraordinaires qui ont été exécutés dans une seule nuit, sans le concours d'aucun être humain. Des murailles de plusieurs lieues de longueur ont été bâties de cette façon, de grands étangs et des marécages ont été desséchés, de grands taillis et des champs de landes ont été coupés et fagotés en une nuit, sans que personne y ait touché. Vous avez eu parmi vous, et vous en avez encore, des hommes d'une force extraordinaire, soit pour la lutte, soit pour porter des charges ou pour travailler aux champs. Vous avez tous entendu parler d'un nommé Perron, qui portait à lui seul le fardeau que 15 hommes réunis ne pouvaient bouger, et faisait dans sa journée 600 fagots, quand les autres pouvaient à peine en faire 200. Il mit un jour en place une auge de pierre que 10 hommes avec des leviers n'avaient pu placer en une demi-journée. Vous voyez aussi des hommes qui gagnent toujours au jeu et d'autres qui découvrent des trésors. Eh bien, mes amis, ces choses-là, comme vous savez, ne se font pas par les forces, par les talents, ni par le savoir ordinaire. Il faut pour cela savoir autre chose que son pater. C'est dans ce livre-ci qu'on peut trouver tous les moyens, toutes les recettes nécessaires pour pouvoir surpasser les autres en quoi que ce soit. Il s'agit seulement de savoir par cœur certains noms et certaines formules qui sont là-dedans, de posséder certaines herbes, du sang et le cœur de certains reptiles ou oiseaux, de soumettre son corps à certains procédés qui sont tous indiqués dans ce livre. Personne n'avait soufflé mot pendant que cet étrange personnage nous débitait d'un ton doctoral les belles choses qu'on pouvait faire avec son livre. Je n'avais pas quitté un instant mes yeux de la figure de cet homme. Je croyais voir ses yeux et sa bouche s'agrandir, et même sa taille, à mesure qu'il parlait. J'avais une grande envie de regarder sous la table pour voir les jambes de ce docteur ambulant. J'avais déjà entendu raconter que le diable se déguisait souvent pour venir dans les fermes tenter les paysans de toute manière, par des marchés, des propositions de mariage, par le jeu de cartes surtout, où il perdait des sommes fabuleuses. Seulement, s'il pouvait jouer toute une nuit sans être reconnu, tous les joueurs lui appartenaient de droit. Heureusement pour les joueurs, une carte ou quelques sous tombaient toujours à terre avant la fin de la nuit. Alors on était obligé d'avoir la chandelle pour les chercher, de sorte qu'en regardant sous la table, on apercevait les jambes poilues et les pieds fourchus du commis voyageur de l'enfer. Aussitôt, celui-ci était obligé de détaler, non sans faire un bruit infernal, en renversant bancs et tables, et même en emportant un coin de la maison. Ce diable-là allait aussi aux grandes noces, et là, déguisé en beau garçon, il invitait à danser les plus belles filles, qui étaient fières et glorieuses de danser avec un si beau gars, si bien habillé. Mais tout à coup, au milieu de la danse, le beau diable se rendait invisible. Il enlevait la jeune fille et partait avec elle à travers les airs. Toutefois, ici, comme au jeu de cartes, le diable était souvent joué et perdait la partie. Car les joueurs de biniou, lorsqu'ils voyaient un beau couple qui dansait mieux que les autres et avec plus d'ostentation, ne le quittaient pas des yeux. Et quand ils s'apercevaient de la ruse du malin, ils s'empressaient de renverser la vapeur de leurs instruments, c'est-à-dire qu'ils entonnaient l'air de Santes Marie, auquel le diable ne pouvait résister. La jeune fille était sauvée, il ne lui restait qu'à aller trouver le curé pour se faire bénir en confessant son orgueil. Le curé la bénissait, la sermonnait et lui faisait promettre de ne plus retourner dans ces lieux de perdition. Voilà des choses dont on entendait parler tous les jours à cette époque, par des gens graves et sérieux qui affirmaient les avoir vus de leurs yeux vus, ou les avoir entendus raconter par des gens dont ils étaient sûrs comme d'eux-mêmes. Et voilà à quoi je pensais ce soir-là, en regardant cet homme étrange, avec son livre plus étrange encore, sur lequel il tenait sa main comme s'il craignait de le voir s'envoler. Un moment cependant, il fit semblant de l'entrouvrir en disant « Oui, il y a de belles choses là-dedans ». Il allait sans doute nous dire comment on pouvait arriver à posséder toutes les recettes indiquées dans ce livre, lorsque la fermière lui dit « Mais c'est un livre du diable que vous avez là !»« Non, dit-il, le livre n'est pas du diable. Le diable est trop bête pour faire des livres. Seulement, il est question dans ce livre, non d'un seul diable, mais de centaines et de milliers de diables par lesquels l'univers est corrompu. Or, dans ce livre, on trouve tous les moyens de chasser ces esprits malins, lorsqu'ils font du mal, ou de les appeler lorsqu'on peut avoir besoin d'eux pour porter les gros fardeaux, faire de gros travaux, et dans ces conditions, le bon Dieu doit être très content de voir l'homme plus fin que le malin des malins. « Ta 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 !» dit la fermière. « Notre curé défend tous les livres qui ne sont pas bénis. Et celui-là ne l'est pas, car je vois des lettres rouges là-dedans. » En effet, pendant que l'homme avait tenu son livre entr'ouvert, la patronne avait pu voir les grosses lettres qui étaient en tête de la première page. Mais elle n'avait pas vu autant que moi, car malgré qu'il cherchait à les soustraire à ma vue quand il sut que je savais lire, j'eus le temps de voir par-dessus sa main 6 lettres majuscules qui formaient parfaitement le mot « Albert ». Elles étaient effectivement imprimées en rouge. Mais la patronne me dit « Allons, Jean-Marie, il est temps de dire les grâces et d'aller nous coucher. » Je me levai et j'allai m'agenouiller au bout de la grande table, place d'honneur réservée à celui qui dit les grâces. L'homme au livre alla aussi s'agenouiller au bout du petit banc, non loin de moi. Après avoir fait et prononcé mon signe de croix d'une voix grave et solennelle, comme l'usage l'exigeait, je jetai vivement un coup d'œil sur les jambes et les pieds de notre voyageur. Ne voyant rien de suspect, j'entamai les grâces, qui commençaient toujours par « Nous nous mettons en présence de Dieu et de sa très sainte mère, pour implorer leur grâce et leur miséricorde, etc. » Pour finir par « Doue abardono dononon, que Dieu pardonne aux âmes des trépassés. » Les prières du soir en ce temps-là étaient très longues. Il fallait adresser de nombreux patères et avés à la mère du Sauveur, à tous les saints, patrons ou protecteurs de l'évêché, de la paroisse, des chemins, des bestiaux, du bon et du mauvais temps, des prisonniers et des soldats, puis beaucoup de De Profundis pour la délivrance des âmes du purgatoire, surtout pour celles qui étaient parties de la maison et particulièrement la dernière. Les prières terminées, la patronne nous dit, aux deux autres garçons et à moi, de conduire le voyageur à son lit, qui était un petit coin de l'étable où couchaient tous les mendiants ambulants. Ils étaient libres d'aller prendre dans la meule autant de paille qu'ils en voulaient pour confectionner leur couche. Ceux qui avaient peur d'avoir froid, ou qui trouvaient leur couverture de paille trop légère, l'un des garçons qui les conduisait prenait le trident qui était toujours là et leur couvrait les pieds et les jambes d'une bonne couche de fumier frais. Notre homme s'y installa aussi avec son livre qu'il mit sous sa tête, par précaution sans doute, ou pour faire mieux entrer dans sa cervelle les fameuses recettes qu'il voulait enseigner aux autres et dont il sentait probablement avoir grand besoin lui-même. Je vis bien alors que celui que j'avais été sur le point de prendre pour un diable déguisé était en effet un bien pauvre diable. Nous avons appris plus tard que c'était un vieux vagabond qui avait été enfant de cœur dans sa jeunesse. Après, il n'avait jamais voulu travailler. il s'était procuré ce vieux bouquin, pensant peut-être trouver là sa fortune. Mais, après avoir vainement essayé toutes les recettes que le livre contenait, il voulait les faire essayer aux autres, moyennant finances. C'était un de ces sorciers, jeteurs de sorts, guérisseurs, rebouteurs, dont nos campagnes bretonnes étaient infestées, et que beaucoup de gens craignaient et respectaient à cause de leur prétendue science kabbalistique, avec laquelle ils pouvaient faire beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de bien, disait-on. Du bien, je ne crois pas, mais du mal, je suis sûr qu'ils en faisaient. Ils volaient tous les jeunes gens assez naïfs pour croire à leur procédé de sorcellerie, en vue d'épouser de jeunes filles riches ou d'avoir de la force et de l'adresse, de la chance au jeu, ou de découvrir des trésors. Ils volaient aussi les pères et les mères en leur vendant des recettes infaillibles pour bien placer leurs filles, pour faire tirer un bon numéro aux garçons lors du prochain tirage au sort, en leur vendant de petits sachets dans lesquels ils mettaient quelques herbes et de petits cailloux, pour protéger les maisons de l'incendie et de la foudre, pour garantir les bestiaux de toute maladie contagieuse. Leur vaste science suffisait à tout. Les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les savants de tout métier n'étaient que des imbéciles pour eux. Et de ce côté-là, ils étaient sûrs d'avoir raison auprès des campagnards qui ne croient pas à la science. Mais où ils avaient tort, ces sorciers, c'était de mettre leur pouvoir au-dessus de la puissance des saints, qui, pour les Bretons, étaient alors, et qui sont encore aujourd'hui, les plus grands médecins et les plus grands savants à qui l'on puisse s'adresser, dans les plus grandes calamités comme dans les plus petites misères de la vie. Sainte Anne, à Auray et à la Palue, Notre-Dame, à Rumingol et à Kerdévote, attiraient et attirent à elles presque toute la clientèle des malades et des infirmes, des chercheurs de fortune et de bonheur. On avait donc recours aux sorciers que dans des cas exceptionnels, désespérés, après avoir vainement consulté tous les saints et toutes les Notre-Dame. On conçoit bien que les idées philosophiques, dont on peut apercevoir quelques-unes ci-dessus, ne m'étaient pas encore venues à l'époque dont je parle. Il était du reste bien difficile d'avoir des idées dans un milieu où il n'en existait pas. Je me trompe, il y en avait quatre, la vie, la mort, le paradis et l'enfer. Par la vie, on entendait un séjour d'épreuves terribles, de travail, de prière, de privation, de misère et de souffrance, qui doivent conduire l'homme à la vraie vie, à la vie éternelle, dans ce beau ciel où sa place est prête depuis longtemps. Mais ceux qui ne suivent pas constamment cette voie douloureuse iront inévitablement au feu éternel. C'étaient là toutes les pensées des Bretons de ce temps. On était heureux d'être pauvre et de souffrir. On suivait ainsi le chemin suivi par Jésus lui-même. J'avais lu dans mon livre de messe certains passages des Évangiles. Que le Messie n'était venu que pour sauver les pauvres, qu'il était plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux que de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Mais, sans avoir alors d'autres idées que celles de tout le monde, mon esprit commençait à avoir certaines inquiétudes. Il avait de vagues idées d'émancipation. Il lui semblait déjà qu'il y avait dans tout ce qu'il voyait et qu'il entendait des choses excessives, des contradictions désolantes. J'avais souvent entendu mon père et ma mère dire qu'ils avaient vu et entretenu des âmes du purgatoire, venues tout exprès leur demander des prières ou des messes pour être délivrées de ce lieu de supplice temporaire. Mon père voyait à chaque instant passer dans la nuit des convois funèbres, où des ombres fantastiques figuraient parfaitement les personnes, sans qu'on pût nommer cependant le futur mort, dont le fantôme faisait ainsi le trajet d'avance. Il affirmait avoir vu des propriétaires et de riches fermiers morts dans l'impénitence dernière, venir ravager leurs propriétés après leur mort et empêcher les gens de prendre aucun repos la nuit. On était obligé alors d'avoir recours à un prêtre pour arrêter le perturbateur nocturne. Mais tous les prêtres n'avaient pas le pouvoir nécessaire. La besogne était rude. Mon père en avait vu plus d'un revenir à la ferme tout trempé de sueur, ayant lutté pendant plusieurs heures contre le délinquant, mais déclarant qu'il le tenait tout de même, bien garrotté et renfermé à double tour dans une espèce de valise noire destinée à cet usage. Il assurait alors les gens de la ferme qu'il n'avait désormais plus rien à craindre de ce vilain tapageur, qu'il se chargeait de lui régler son compte. Mon père voyait aussi très souvent surtout au croisement de chemin, de petits lutins, des courigans ou couriquets, qui lui jouaient de vilains tours. En l'obligeant à jouer ou danser avec eux toute la nuit, ou en le conduisant dans un mauvais chemin rempli de ronces et d'épines, d'où il ne sortait qu'au point du jour, avec ses hardes et sa peau en lambeaux et ensanglantés. Non seulement mes parents, mais tout le monde, même des jeunes gens de mon âge et au-dessous, disaient avoir vu toutes ces choses. Moi seul, je ne voyais rien. Cependant, j'avais souvent voyagé la nuit, surtout quand j'exerçais la profession de mendiant, et plus tard, quand, domestique, j'allais à toute heure de nuit chercher les bestiaux dans les bois et les garennes, aux endroits même que l'on disait habités par les couriquets. Aucun de ces petits lutins ne vint jamais me troubler dans mes recherches nocturnes. Je n'étais donc pas fait comme tout le monde. Mes yeux ne voyaient pas comme les yeux des autres. En 1853, parut une comète qui devint dans nos campagnes l'objet de toutes sortes de prophéties plus ou moins sombres. Les uns y voyaient un signe de la colère de Dieu contre les crimes et les péchés du monde. Les autres y voyaient l'annonce d'une grande famine. D'autres enfin, qui étaient les plus nombreux, je crois, y voyaient tout simplement l'avertissement d'une terrible guerre. Ceux-ci eurent raison et ne manquèrent pas de s'applaudir de leur talent prophétique. La guerre de Crimée fut déclarée moins d'un an après l'apparition de cette comète. Tout le monde, excepté moi, bien entendu, avait aussi vu, en ce temps-là, le ciel tout rouge une nuit. Cette rougeur céleste avait été l'objet à peu près des mêmes commentaires que la comète. Beaucoup assuraient avoir vu des armées immenses combattre à travers ces nuées rouges. Il y en avait même qui disaient s'être reconnus, avec beaucoup d'autres, dans ces mêlées effroyables, préludes d'autres luttes plus terribles qui devaient bientôt se livrer sur la terre. Plusieurs avaient vu Napoléon Ier, avec son petit chapeau et son cheval blanc, courir sus aux bataillons et escadrons qui fuyaient en jonchant leur route de cadavres d'hommes et de chevaux. J'écoutais ces dernières prophéties avec un certain enthousiasme. J'avais souvent entendu raconter les grandes batailles de Napoléon par mon père et par d'autres, qui avaient été plus longtemps et plus loin que lui. J'avais 18 ans, et cette guerre, suivant la dernière prophétie, devait arriver sous peu. J'en serai donc probablement, si toutefois mère nature voulait se dépêcher de m'agrandir un peu, car alors je n'avais pas encore la taille d'un soldat.